C'est KUT 86,3 FM. C'est l'émission Pirate et Libre en piste sur la danse. Ouais, ouais, ouais. C'est Ramon Vitesse.
Quoi faire aujourd'hui, ce que l'on peut remettre à demain? Pourquoi courir lorsque l'on sait qu'on a déjà raté le train? À quoi bon rester sobre? Et à quoi bon se lever tôt pour que le corps absorbe tant qu'on a la peau sur les os? Regarde-moi dans les yeux et jure-moi que j'ai tort. Regarde-moi dans les yeux, donne-moi l'air mort, déshabille-toi un peu, fais respirer ton corps. J'ai dans la tête un petit jeu qui ne demande aucun effort, aussi peu. Nouveau la parole, cependant que le geste prend tout son sens, que ne s'achèvent les années folles, fruit d'une éternelle insouciance. Un peu de plomb dans l'aile, mais toujours plus haut qu'hier. Parler debout de la chandelle, par tous les trous, les fous et sur tous les airs. Regarde-moi dans les yeux, et jure-moi que j'ai tort. Regarde-moi dans les yeux, donne-moi l'air mort, déshabille-toi un peu. Respirer ton corps, j'ai dans la tête un petit jeu qui ne demande aucun effort. Aussi peu, aussi peu, aussi peu, aussi peu. Allez, passe-là. Ça n'a rien à voir avec la grande révélation. J'avoue que ça mène un peu nulle part. C'est trop facile, t'as bien raison. Mais où t'as lu qu'il faille souffrir? Quel mérite a donc ta vertu? On commence jamais à vivre que lorsque l'on s'avoue vaincu. Regarde-moi dans les yeux, jure-moi que j'ai tort. Regarde-moi dans les yeux, donne-moi l'air mort, déshabille-toi un peu. Respirer ton corps, j'ai dans la tête un petit jeu qui ne demande aucun effort. Aussi peu, aussi peu, aussi peu, aussi peu.
يا والعلامة belle.
Oh bordel, c'était Manu Chao, tiré de son album Radio Linéa. C'est la pièce Raining in Paradise, comme s'il pouvait pleuvoir au paradis. En fait, c'est plutôt le paradis qui pleure sur la terre. Eh oui, c'est peut-être comme ça, en fait. On s'explique mal la météo et c'est pas Météo Média ou ces machins-là qui vont nous aider à cet égard. On a joué pour vous aussi Rachid Taha. Rachid Taha, un beurre français qui a révolutionné le rock avec des beats fulgurants, notamment avec un instrument australien, à savoir le didgeridoo. Ici, c'est tiré de l'album « Tique-toi » qui comportait le fameux rock de Kashba des Clash, et Joe Strummer avait dit lui-même que la version de Rachid Taha était supérieure à celle des Clash eux-mêmes. Quand même, c'est une belle marque d'estime. Ici, on a plutôt joué la pièce « Mamachi » sur l'album « Tique-toi » de Rachid Taha. On a commencé cette émission de Pirates et Libres sur le 96.3 FM avec Paul-Émile Bazard. C'est un extrait de leur tout premier album, le début de l'aventure Paul-Émile Bazard à l'époque, et c'était l'album intitulé « Chair de lune ». Un album avec sa pochette en fait en papier mâché, ou en tout cas une genre de sculpture art en papier mâché, qui pouvait évoquer certes les têtes raides en France, ou encore peut-être l'imaginaire des ogres de Barbac, avec une dessinatrice qui leur était quasi attitré. C'était la pièce « Jure-moi que j'ai tort ». Ah, c'est quand même assez émouvant que les pièces poétiques de Paul-Émile Bazard qui vont nous suivre encore pour longtemps, malgré que le groupe n'existe plus. Alors voilà, pour ce début d'émission, peut-être puisqu'on est dans la musique, aussi poursuivre avec deux bandes dessinées directement en lien avec la musique. La première, en format qu'on dit à l'italienne, c'est-à-dire sur le large, ça s'intitule Bix, B-I-X. C'est publié chez l'éditeur québécois La Pastèque. Il s'agit d'une traduction de l'auteur américain Scott Chandler, C-H-A-N-T-L-E-R. Scott Chandler, c'est son tout premier roman graphique, et un roman graphique qui avoue d'emblée comme étant salvateur pour lui, qui est passé par plein de morts dans ses amitiés, dans sa famille, et lui-même avec des envies d'en finir avec la vie. Alors, la vie de Bix, un trompettiste qui a blanc, qui a côtoyé le fameux trompettiste Louis Armstrong, eh bien, il est passé par toutes sortes de galères. À commencer dans son enfance, ses parents préféraient qu'il joue du piano et qu'il se voue au chant d'église. Alors, la trompette, les histoires de noir et tout, le jazz, pas question. Alors, il aura fugué quelque temps, il aurait été rapatrié par la famille pour être envoyé à l'usine, il va encore refuguer, et ainsi de suite. Il va s'adonner à la trompette envers et contre tous, et il va devoir rompre avec sa famille pour pouvoir poursuivre cette aventure. Ça s'est pas fait sans mal. Il a sombré peu à peu dans l'alcoolisme pour gommer cette partie-là qui lui faisait une douleur intense. Alors, Bix, c'est une aventure qui est très intériorisé. Et Scott Chandler, pour ce projet, a bénéficié d'une mentor. Et cette mentor l'a aidé, puisque ce qu'il souhaitait faire, c'était une bande dessinée quasi muette, à 90%, voire 95%. Cette bande dessinée en bichromie, en noir-blanc et un bleuté rétro, est entièrement muette. Alors, comment passer tous ces chamboulements intérieurs, toute cette détresse? C'est ce que Scott Chandler parvient avec un certain brio. Son premier amour, l'enfant qui va être avorté finalement, son alcoolisme qui le rattrape et qui le détruit, qui le morcelle à la fin de sa vie. C'est assez effrayant. On comprend pas tout, mais je pense que c'est peut-être même là l'intérêt de ce livre-là, qui n'a pas un format régulier, qui n'a pas un format non plus de gaufrier au niveau des pages. On a l'impression de voir aller un dessin animé, puisque c'est, règle générale, une seule ligne de case qui se poursuit toujours. Donc, on est à cheval entre le dessin animé et le récit graphique, la narrativité de la bande dessinée, avec des sauts entre chacune des cases. Donc, une lecture panoptique, oui, mais seulement de gauche à droite, et un défilement rapide, peut-être plus rapide. Un livre, donc, assez fascinant et qui se réinvente au niveau de l'usage des cases et de la narrativité en bande dessinée. Donc, Bix, publié chez La Pastèque en français, par Scott Chandler. Un très bel essai graphique et aussi une très belle aventure musicale qui est un peu ce qu'on appelle un auteur maudit au niveau de la trompette. Quant à Bella Ciao, c'est le tome 1 publié chez Futuropolis par l'auteur Baru. Baru, je l'ignorais, est d'origine italienne. C'est ses grands-parents, je crois, qui ont immigré en France. Et ce livre-là nous dévoile l'origine de la chanson si célèbre italienne Bella Ciao. Eh bien, figurez-vous que c'est pas une chanson italienne. Un de ses cousins qui va étudier l'ethnologie musicale, des trucs comme ça en France, va tranquillement remonter les sources de la chanson, et ça viendrait plutôt d'Europe de l'Est, des musiques tziganes. Un tzigane qui aurait immigré aux États-Unis l'aurait enregistré dans les années 10 et 20, par un hasard qu'on ne connaît pas, qu'on ignore, cette chanson-là serait revenue vers l'Italie et les communistes se la sont appropriés pour en faire un chant partisan. Étonnant, étonnant, à travers donc une espèce d'autobiographie et aussi une recette de petite pâte fourrée fabriquée maison que Baru nous livre. Un livre donc attendrissant, un livre autobiographique sur le tard par Baru, qui en avait déjà fait un aussi précédemment avec un livre qui s'intitulait Les années Spoutnik. Alors voilà, c'était les années de la fusée. Et Baru est extrêmement modeste. Entre autres, quand il parle des années de guerre de son grand-père ou de son père, je crois, il cite Tardy et il dit « Là où le maître Jacques Tardy est passé, il n'y a plus rien à dire. » Alors voilà, mais de toute façon, son aïeul ne lui avait dit que dalle de ses années de guerre. Donc, Bella Ciao, un côté historique, les espèces de pogroms qui avaient été menés en Ardèche, ou en tout cas dans cette partie-là de la France,
par des Français qui crevaient la dalle et qui voulaient bouter hors de France les Italiens qui leur volaient leur job. Alors voilà, ça commence avec ça et ça se poursuit entre autres avec Bella Ciao et cette immigration graduelle de la famille vers une partie de la France, de l'Europe où ils pouvaient vivre. Étonnamment, on fait aussi des parallèles avec le monde actuel, avec toute cette vague de migrants qu'on a affamés et qui viennent chercher le pain là où il est. Et c'est la moindre des choses, bon sang. C'est toutes les vestiges des massacres et des vols coloniaux. Bella Ciao, Uno, chez Futuropolis, par l'auteur Baru. Toujours sur CKUT 90,3 FM, en avant la musique.
Pas, mais je respire le même air que toi. Je bois la même eau, je colle les mêmes larmes. Mais les miennes, je les brosse en mouchoir. Le vent en face, en pouvoir fort en vie. On n'a pas les mêmes armes. Tu crois à la loi du plus fort. Parce que t'as gagné une bataille. Il tac la pression, c'est trop bien qui s'infiltre à travers les failles. Va s'exploser, se faire ouest.
Thank you. y a rien là. C'est facile. La 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 la.
Je suis renard polaire. Je trouve ma tanière derrière les hangars. Je trouve ma tanière loin des regards. Dans un chac au nord du Mont Radar. Dans un chac au nord du Mont Radar. Dans un chac au nord du Mont Radar. Dans un chac au nord du Morador. Un cri animal. Au nord se prépare la meute des renards. Au nord se prépare les meutes des renards. Dans un chac au nord du Mont Radar.
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 Au nord du Mont Radar.
Ah, le shack au nord du Mont Radar. C'est Charlie Foxtrot qui nous envoie ça en pleine gueule. C'est tiré de leur album La Mèche Courte. Ils auront eu que deux albums. Pour votre gouverne, rappelons que les origines de ce groupe tumultueux, anarchiste, libertaire et toujours hors normes vient du groupe MAP, Mort au pourri, qui faisait dans le ska rock, ska punk, même hardcore à l'occasion. Ensuite, il y a eu, bien sûr, des membres du groupe qui ont reformé Charlie Foxtrot que vous venez d'entendre, mais certains sont allés aussi vers Achigan, un autre groupe qui est rattaché à l'histoire de MAP. Et plus récemment, ils ont fait aussi Varlop. Varlop qui est disponible sur le net, à ce que j'en sache pour l'instant. Trois mini-albums, dont une chanson absolument fantastique sur l'usage de l'automobile complètement stupide et éhonté qui est en train de nous foutre comme des lemmings dans le précipice. On a joué aussi pour vous un autre groupe mythique, les Têtes Réduites. Celles-là, si on peut dire comme ça, ont toujours travaillé plus ou moins ensemble avec Francis notamment et le fameux magnifique à la guitare aussi. Alors c'était la pièce Paresseux, un album éponyme pour lequel Francis, qui est une tête pensante si on peut dire des Têtes Réduites, était allé chercher Bourgoing, l'ancien batteur des Colocs. Toute une histoire musicale pour ce groupe fétiche, mythique et maudit de l'underground des années du Café K.O. à Montréal. Têtes Réduites, seulement deux albums à ce jour, Chic et poussiéreux et celui-ci éponyme, pour lequel aussi Francis avait été chercher Henriette Valium pour faire le dessin, le fameux pape du comic underground montréalais, mais aussi à l'international, puisque je l'ai encore vu cité dans Fanzinorama de la Fanzinothèque de Poitiers pour leurs 25 premières années, leurs 30 premières années d'existence. On a commencé le tout avec un groupe éloigné des centres au Québec. Il s'agit des Connards à l'Orange qui étaient dans la région de Sherbrooke. Les Connards à l'Orange avec un transfuge qui reste, bien sûr, le chanteur, guitariste Frank Custeau. Ici, c'était le chant du cygne des Connards à l'Orange, si on peut dire. L'album Bave de robot sur l'étiquette Slam 10 qui les a hébergés. C'était la pièce Comme du bétail. Pour s'achever avec des bandes dessinées, commençons donc avec Nestor Burma. Nestor Burma, le fameux personnage de Léo Mallet, des fameux romans noirs, des romans de gare qui avaient dédié dans différents arrondissements de Paris, avec un espèce de langage coloré, un espèce d'argot français. Et aussi, on a tout l'aspect anarchiste et l'aspect révolutionnaire de la poésie surréaliste en arrière-plan, puisque Léo Mallet, c'était les choses qui l'intéressaient et qui l'allumaient. Nestor Burma, son détective privé, à forme d'une tête de taureau. Ici, on a l'adaptation de son roman « Les rats de Montsouris ». C'est maintenant Ravard qui adapte les scénarios, les livres de Léo Mallet. Et c'est maintenant Moineau qui fait les dessins. Il s'en est bien tiré, mais encore, c'est pas si facile que de reprendre là où Jacques Tardy avait dessiné les premières adaptations des romans de Léo Mallet. On sent toujours, malheureusement, une espèce de désir d'imitation de l'effrayant, du terrible, du solide Jacques Tardy. Personnellement, un des éléments que je vois qui fonctionne peut-être mal dans chacune des tentatives de différents dessinateurs de reprendre Léo Mallet, c'est peut-être le trait gras, le trait fort, le trait brûlant de Jacques Tardy. Qu'à cela ne tienne, c'était une bonne aventure. Nestor Burma, Les rats de Montsouris, publié chez Casterman par les auteurs Ravard, Moineau et bien sûr inspiré de l'œuvre de Léo Mallet et aussi, on le cite dès la page couverture, d'après l'univers graphique de Tardy. Peut-être trop de grandes références nuisent à l'envolée de cette œuvre. Maintenant, un roman, une saga qui va paraître en trois tomes. C'est rare que je couvre des romans sur cette émission Anar, mais celui-ci m'a définitivement séduit. Pourquoi? Parce qu'il est illustré par Tom Tirabosco, un BDiste que j'affectionne pour son trait terreux, son trait vraiment charbon. Alors, le livre s'intitule « L'attrape malheur » et c'est le premier tome « Entre la meule et les couteaux ». C'est publié chez La Joie de lire par l'auteur français Fabrice Hadjadj. Hadjadj, ça s'écrit H-A-D-J-A-D-J. Je suis plongé dans cette lecture. Fabrice Hadjadj, donc, est un écrivain, philosophe, dramaturge, et ses différentes facettes donnent une capacité peu commune pour le développement d'idées. L'attrape-malheur, c'est son premier roman pour la jeunesse, et j'espère pas le dernier. Je suis en train de le lire présentement, ce premier tome, et il s'agit d'un enfant qui est né avec une espèce de don ou de pouvoir, mais qui le range au niveau des monstres. C'est d'ailleurs ce qui fait que très bientôt, dans le livre, il va rejoindre une troupe de cirque pour potentiellement être exhibé. Alors, et son don a un lien étonnant, un lien paradoxal, c'est-à-dire que son corps se reforme après différents accidents, mais aussi qu'il peut prendre le mal d'une tierce personne et le faire sien pour l'en délester. Il a fait cette chose-là avec une petite amie qui avait des blessures. Il a fait ça avec sa mère qui avait une fièvre et un rhume pas possible. Bref, ça se passe dans une époque semi-médiévale. Et ce livre-là, illustré par Tom Tirabosco, je le répète, c'est quand même décupler la force du livre, déjà très fort avec des chapitres rikiki, mais solides et bien envoyés. L'attrape-malheur, j'en reparlerai certainement, c'est le premier tome de trois publié chez La Joie de lire. Celui-ci s'intitule « Entre la meule et les couteaux » par Fabrice Hadjadj et Tom Tirabosco au dessin.
1, 2, 3, bruit!
Moi, je ne vois jamais. Pour les filles, c'est l'air. Je m'envoie des milkshakes et des cold drinks. J'enroule mes anglaises, basculer sur ma chaise. Une joue Peter Pan sur grand écran. Quel âge, on ne sait pas, ce n'est qu'un nuage de barbe à papa. Papa. Moi je ne bois jamais. Pour les filles c'est l'air. Quand je ne suis pas sage, tu es en rage. Tu me mets des raclées avec le gin baissé. J'adore un appareil.
Papa, quel âge, on ne sait pas.
droite, les bras comme des pansoirs. Le type au bout des doigts quand les veines ont le stomac des talons. Mon pays, c'est pas un pays, c'est Blanche-Neige. La carte malade facile, le Père Noël des veines. L'homme invisible, le fantôme de l'avant-bras.
Thank you.
Ouais, eh bien, on vient de jouer quatre figures, je dirais, de référence pour la jeune musique underground, et à chaque fois, j'ai tenté de l'illustrer avec des collaborations. On a commencé le tout avec Brigitte Fontaine, qui est une vieille hippie, si on peut dire, de la chanson alternative. C'est tiré de son album Libido. Et elle-même ici faisait une reprise Barbapapa, une reprise que les yéyés ont affectionnée. Brigitte Fontaine a su se renouveler et aller chercher des collaborations plus modernes de façon à ajouter un côté dance floor à sa musique, à ses poésies complètement liées aux élucubrations. On a joué aussi pour vous Jean Leloup. Jean Leloup, tiré de son album « Mille excuses, my lady », c'était la pièce « La plus belle fille de la prison ». Jean Leloup, lui, s'est accoquiné au label « Grosse boîte » pour renaître, parce que Jean Leloup a fait une descente aux enfers, si on peut dire, avec ses histoires d'alcool, avec son succès fulgurant, duquel il a eu de la misère à se remettre. Alors voilà, Jean Leloup, c'était une renaissance avec un label de jeunes qui l'accueillait. On avait joué récemment à notre émission les sœurs Kate et Anna McGarrigal, que l'étiquette La Tribu est allée chercher. C'était des références de ces jeunes qui avaient parti cette étiquette et qui maintenant, rendus au succès, ont décidé de rendre hommage à certaines figures. Il y avait aussi Robert Charlebois dans cet ordre d'idées. On a joué également autre chose. Vous avez reconnu les pays d'en haut. C'est tiré d'un album intitulé Chanson d'épouvante. Chanson d'épouvante, c'est un album que Lucien Francoeur a commis avec des jeunes qui avaient renouvelé la musique underground à la fin des années 80, à savoir, entre autres, Vincent Peake dans Groovy Hard Rock, mais à savoir aussi Joe Evil dans Grimmskunk, mais également des gens de Voivod, à savoir, entre autres, Michel Langevin ou encore de d'amour. Alors, Lucien Francoeur ici est entouré de jeunes vétérans de cette scène alternative pour redonner du punch à des chansons qui ont fait leur marque au Québec avec le groupe Autre Chose. Pour s'achever, la dernière pièce qu'on venait d'entendre, c'était Rudy Kaya qui renaissait avec l'album Le Taureau, et ici c'était la pièce Réalité TV, et on retrouve à ses côtés Hugo Mudy qui lui rend un méchant hommage en travaillant avec lui sur cet album Retour, Le Taureau. Alors voilà pour ce mini-portrait de renouveau par rapport à des références. On va poursuivre avec le groupe Les Chiens, un extrait de Rosk, Le Pire et le Mieux, sur CKUT 90.3. FM. Je rappelle que la revue À bâbord d'automne 2020 est sortie. La revue À bâbord, le numéro 85, avec un dossier sur Québec qui comporte notamment une interview avec Webster, le rappeur, mais aussi des illustrations de Wharton Pantois, qu'on connaît bien en punk rock. Ses collages, son art urbain ornent la page couverture de la revue et une illustration à l'intérieur.
entre le rien et le toi, entre le dur et le tendre, entre le donne et le prendre, entre la banque et le vol, entre le fer et les paroles, entre les mots et le sang, entre le oui et le non, coincé entre le pire et le mieux. Et de voir se déchirer en
Sweet.